Vous êtes sur RTL.
Nous sommes le lundi 3 janvier 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. À nouveau, tous nos voeux, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, télétravail obligatoire, quarantaine allégée ou encore la multiplication des tests dans les écoles. Des nouveaux bouleversements dès aujourd'hui pour notre quotidien.
Objectif, freiner la propagation très rapide du variant Omicron sans mettre l'économie à l'arrêt. On va détailler tout ça dans quelques instants. À suivre également, un scandale écologique dans les Bouches-du-Rhône. Un entrepôt de déchets en flammes. Les habitants soupçonnent un incendie volontaire. En 2022, plus de taxes pour les gros 4x4 qui polluent. Et puis en Coupe de France, des footballeurs amateurs de Chevigny heureux malgré leur défaite face à l'OM.
La politique, Olivier Boss.
Et la rentrée politique, c'est un drapeau, le drapeau de la discorde européenne.
Dès la fin du journal.
RTL Matin.
Après 2 ans de crise sanitaire, il va encore falloir changer nos habitudes en ce lundi de rentrée. Ça commence dès les transports en commun. Bonjour Léonard Cassette.
Bonjour.
Vous êtes en direct de la gare de Lyon pour RTL. Des changements qui commencent déjà pour les usagers que vous avez rencontrés.
Oui, et une annonce dans la gare qui le rappelle régulièrement, pas de nourriture et de boisson à bord. Alors certains voyageurs prennent leur disposition avant le départ, petit déjeuner sur le pouce, croissant, café. Renaud, qui prend le train pour Marseille, lui, ne s'interdira rien une fois à sa place.
Moi j'ai des oranges, de l'eau, et je vais continuer à boire et à manger dans le train. Je ne vais pas m'arrêter de boire pendant 3 heures, c'est carrément malsain. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on va s'arrêter de respirer aussi un jour.
Alors que d'autres voyageurs parlent d'aller boire en cachette, aux toilettes, Emma, qui attend son train pour Montpellier, compte respecter les mesures à la lettre pour se protéger de ceux qui profitent d'un repas pour tomber le masque.
Je pense que c'est tout à fait normal en fait que l'on commence à plus manger dans les trains, surtout sur les longs voyages, parce que des fois, malheureusement, on a des personnes en face de nous qui sortent des repas énormes et qui postillonnent. C'est un risque qu'il faut prendre en compte.
La SNCF précise quand même que la mesure sera appliquée avec discernement, notamment pour l'eau et pour l'alimentation des jeunes enfants et des personnes fragiles.
Les explications de Léonard Cassette en direct de la gare de Lyon à Paris pour RTL grâce aux moyens techniques de Mathias Julien.
Ça va pas être facile. Hein. Dès aujourd'hui également du changement pour les règles d'isolement. Une quarantaine plus courte pour les contaminés comme pour les cas contacts d'ailleurs.
Difficile de s'y retrouver ce matin. On va avoir besoin de l'aide de notre experte Sophie Jousselin. Alors imaginons Sophie que je sois positif. Désormais quelle est la règle ?
Eh bien, tout va dépendre de votre statut vaccinal. Si vous êtes vacciné, 2 ou 3 doses, selon la date de validité de votre passe sanitaire, l'isolement est désormais de 7 jours au lieu de 10 auparavant, et il pourra même être réduit à 5, à 2 conditions, que vous n'ayez plus de symptômes et que vous effectuiez un test PCR ou antigénique qui doit bien sûr être négatif. En revanche, si vous n'êtes pas vacciné, votre isolement est de 10 jours, réduit à 7, si là aussi vous ne présentez plus de signes d'infection et que vous réalisez un test dont le résultat est négatif.
Bon, donc ça c'est si je suis contaminé. Par contre, si je suis entre guillemets seulement cas contact, qu'est-ce qui change ?
Alors, première situation, vous êtes vacciné et là, vous n'avez pas à vous isoler, mais vous devez faire 3 tests qui doivent être évidemment tous négatifs. Le premier, obligatoirement un PCR ou un antigénique, vous le réalisez dès que vous apprenez que vous êtes cas contact. Les 2 autres seront des autotests à faire le 2e et le 4e jour. Et si vous n'êtes pas vacciné, vous devez obligatoirement vous isoler pendant 1 semaine et avoir un test antigénique ou PCR négatif à l'issue de cette période de quarantaine.
Les explications de Sophie Jousselin pour RTL. Réunion cet après-midi autour du Premier ministre Jean Castex qui rassemble 10 membres du gouvernement à 16h pour, je cite, faire le point sur l'impact du variant Omicron et sur la continuité des services publics essentiels. Sont concernés les hôpitaux, les écoles, les transports en commun, les administrations, l'armée, gendarmerie, commissariat ou encore les entreprises du secteur de l'énergie, alors que la France atteint des records de contamination en plus de 200 000 cas chaque jour depuis le 29 décembre.
Les règles évoluent également dans les écoles. Hein, Jean-Michel Blanquer réclame désormais 3 tests à chaque élève dès qu'un cas positif est détecté dans une classe.
Le ministre de l'Éducation nationale dévoile le nouveau protocole dans une interview au Parisien. Les élèves devront faire un premier test PCR ou antigénique. Ils recevront ensuite 2 autotests gratuits en pharmacie à faire à J+2 et J+4. Une multiplication des tests qui doit permettre de garder les classes ouvertes. Jean-Michel Blanquer lance également un appel aux maires pour installer des capteurs de CO2 dans les écoles. Face à l'explosion des contaminations, plusieurs syndicats d'enseignants réclament des masques plus protecteurs, des FFP2. Une demande qui a
soutenue par Éric Ciotti.
Exactement, soutenue par Éric Ciotti, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI, le député des Alpes-Maritimes, qui estime que c'est à l'État de donner des masques FFP2 aux personnes vulnérables, les personnels de santé, les personnels publics. Alors certains de nos voisins, comme l'Italie ou l'Autriche, par exemple, ont décidé de généraliser ces masques. En Grèce, dans certains endroits, il faut même porter un double masque. Alexia Kefalas, est-ce que cette mesure est respectée ?
Eh bien, c'est toute la question, parce que le masque FFP2, par exemple, est obligatoire dans la rue. Mais dans les supermarchés ou transports en commun, ce masque seul est toléré, mais la règle exige deux masques. Bon, la mise en œuvre est assez chaotique, comme l'explique Poppy, employée au rayon fromage d'une grande surface qui est obligée de crier pour se faire entendre à travers ces deux épaisseurs.
On a le FFP2 et par-dessus celui en tissu avec l'enseigne du magasin. C'est l'enfer.
Avec deux masques, faire ses courses devient un véritable calvaire.
Moi, je n'arrive pas du tout à me faire comprendre avec ces masques. Ça me fait très mal aux oreilles et puis c'est fatigant.
Alors, ceux qui ne respectent pas la mesure sont passibles d'une amende de 300 euros, mais Stavros, chauffeur de bus dans le centre d'Athènes, estime que le contrôle du nombre de masques par usager ne lui revient pas.
Il n'y a pas de contrôle ici et moi je refuse de les compter sur le visage des usagers, que chacun prenne ses responsabilités.
C'est donc plus une mesure dissuasive qu'autre chose.
Alexia Kefalas, la correspondante de RTL en Grèce.
7h06, des masques filtrants, les habitants de Saint-Jamas dans les Bouches-du-Rhône aimeraient bien en avoir. Hein. Un incendie les empêche de respirer depuis maintenant plus d'une semaine.
Ils ont l'interdiction de faire du sport ou n'importe quelle activité à l'extérieur. En cause, un entrepôt de stockage des déchets qui brûle depuis le 26 décembre dernier. Hugo Hamelin.
Oui, une fumée blanche et âcre enveloppe encore ce matin plusieurs quartiers et les riverains se posent des questions.
Des fumées, ouais, des grosses fumées. Des fois, on dirait que c'est, ça reprend, ça fait comme des gros champignons.
Ça piquait les narines et piquait la gorge, quoi.
On me montre des photos du départ de l'incendie.
Et regardez, juste 5 minutes après. Ça prend pas feu comme ça, hein.
Ça a pris feu très vite.
Ah oui, même très très vite, même. Je pense qu'il y avait un peu d'essence là-dedans, quoi.
Des habitants suspicieux, car le site débordait 20 fois plus de plastique et de papier que la quantité autorisée. Pas de système anti-incendie. L'entreprise encaissait simplement quelques milliers d'euros à chaque déchargement de camion et promettait de recycler. La préfecture avait exigé qu'elle soit dans les clous au 31 décembre. L'incendie tombe donc à pic pour l'entrepreneur Didier Kelfa, le maire de Saint-Chamas.
L'autorisation qui était donnée à cette entreprise était de stocker 1000 mètres cubes, alors que là, on pouvait considérer qu'il y avait entre 20 000 et 30 000 mètres cubes. Donc, effectivement, les conditions d'exploitation pouvaient laisser penser qu'on pouvait aller vers une catastrophe.
Une enquête pour destruction volontaire a été ouverte. Des experts sont attendus sur cet incendie toxique cette semaine.
Hugo Hamelin dans les Bouches-du-Rhône pour RTL.
Un nouveau féminicide présumé à Nice, hein, le troisième en deux jours.
Cette fois, c'est le corps d'une femme de 45 ans qui a été découvert samedi soir. Son compagnon et son fils sont tous les deux en garde à vue. La nuit du Nouvel An, déjà deux femmes avaient été tuées dans le Maine-et-Loire et en Moselle. Pauline Baron du collectif féministe Nous Toutes.
C'est à la fois de la colère et une forme de lassitude parce qu'on va reprendre dès ce début d'année le décompte du nombre de féminicides au sein du couple. Et depuis maintenant 3 ans, on voit que ce décompte n'a pas suscité véritablement d'électrochoc au niveau de la classe politique et du gouvernement en particulier, de donner des moyens financiers pour que tous les dispositifs qui ont été notamment annoncés lors du Grenelle des violences conjugales puissent être déployés massivement du type bracelet anti-rapprochement ou téléphone grave danger. On est à 1400 téléphones grave danger mis à disposition, ce qui est dérisoire quand on sait qu'on a environ 220 000 femmes victimes de violences au sein du couple de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. Il faut vraiment que cette question des violences conjugales et plus largement des violences de genre soit vraiment au cœur des débats.
Des propos recueillis par Nicolas Burnand pour RTL.
Avoir une grosse voiture polluante va coûter encore un peu plus cher cette année. Hein.
Oui, là aussi, les règles changent, Christophe Bourroux.
D'abord, la bonne nouvelle, la prime pour l'achat d'un véhicule électrique est maintenue, 6 000 euros jusqu'en juillet. Ensuite, elle passera à 5 000 euros. Coup de pouce également maintenu pour les hybrides rechargeables avec 1 000 euros, mais qui disparaîtra cet été. En revanche, côté malus, le seuil de déclenchement a été abaissé et fera grimper l'addition pour pas mal de modèles. Ainsi, compter 330 euros à débourser pour un Dacia Duster Essence, soit une centaine d'euros de plus que l'an dernier. Et pour les voitures les plus polluantes, type sportif de luxe, eh bien là, le malus fera très mal au portefeuille, jusqu'à 40 000 euros à payer. Enfin, il y aura bien une taxe au poids. Après des mois de débats, le sujet a été tranché, mais il ne concernera que des véhicules particulièrement lourds, essentiellement de gros 4x4, qui devront payer 10 euros par kilo supplémentaire au-delà d'une tonne 8. Les électriques et hybrides pénalisés par les batteries vont finalement y échapper.
Christophe Bourreau, le spécialiste auto de RTL.
Le football, victoire de Marseille hier soir en Coupe de France.
Oui, 3-0 face à Chauvigny, des amateurs pas rancuniers, hein, comme vous allez l'entendre, le défenseur chauvinois Arsène Zazamba.
Des regrets, non, parce qu'on a voulu tout donner sur ce match-là. Je pense qu'on a tout donné. On a eu une grosse équipe, ils nous ont respectés, donc on n'a pas forcément de regrets. On a fait un très beau parcours. Et rien qu'avec l'équipe, les supporters, avec en fait tout ce qui s'est passé en fait à Chauvigny, tout était réuni en fait pour garder ses souvenirs. Ça va rester dans nos mémoires à nous tous. C'était magnifique. L'équipe, en fait, elle s'est un peu créée cet été. Et on s'est tous vus, on ne se disait pas qu'on allait faire un si beau parcours en Coupe de France. Et vraiment, on est satisfaits. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas du tout de regrets. On a joué le match à fond, on a joué tous les matchs à fond. Et là, on est super contents tous.
Vous êtes reparti avec un maillot ?
Je suis reparti avec un maillot, avec celui de Milik. Et je suis super content.
Et ben voilà, ils n'ont pas tout perdu. Hein.
Très sympa. Hein.
Arsène Zazamba, ouais. Défenseur de l'équipe de Chauvigny, des propos recueillis par Guillaume Frixon pour RTL. Et puis, dans les autres rencontres de ces 16e de finale de Coupe de France, pas de miracle pour les 4 clubs de 5e division. Donc, ont été tous éliminés. Deux clubs de 4e division ont quand même réussi à se qualifier pour les 8e de finale. Bergerac, vainqueur au tir au but face à Créteil, et Versailles qui a battu La Roche-sur-Yon 4-0. Les autres qualifiés: Nantes, Brest, Toulouse, Montpellier, Bastia, Nancy, Monaco, Saint-Etienne, Amiens et Reims. Et ce soir, notez que l'équipe de Vannes, hein, les Bretons, qui évolue en National 2, vont tenter de créer l'exploit face au Paris Saint-Germain. Ce sera à 21h10.
On termine, Alexandre, avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Pau.
Les pronostics de Dominique Cordier pour le Quintet. Voici le 4, le 5, le 6, le 7, le 12, le 3, le 13 et une dernière minute, le numéro 7, Danse avec Jersey.
Et le journal de 7h nous était proposé par Alexandre de Saint-Aignan. Il est 7h12, la politique avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves.
Je vous souhaite d'abord une bonne année 2022.
Meilleurs vœux Yves et meilleurs vœux à tous.
Vous nous faites des vœux un peu particuliers ce matin justement.
Bah oui, parce que moi je vous souhaite carrément une très bonne année 2005. Je vous dis ça au vu de la première polémique de l'année, le drapeau européen flottant seul sous l'Arc de Triomphe. J'ai l'impression de revenir 17 ans en arrière au moment du référendum raté sur la construction européenne. L'Europe reste une douleur, un sujet de division profonde et elle nous donne le premier débat, enfin débat polémique, de cette année présidentielle. Et vu les mots employés, fierté, effacement de l'identité française, outrage, attentat, pour qualifier la place de ce drapeau, au vu des mots employés, cette polémique raconte autant de l'état de l'opinion que de l'état des candidats.
Alors justement, dites-nous tout, commençons par les candidats, qu'est-ce que le week-end révèle ?
Eh bien qu'ils sont à cran, déjà. Emmanuel Macron a fait le choix d'en faire des tonnes sur la présidence française du Conseil de l'Union européenne. C'est normal, me direz-vous, l'Europe c'est son seul marqueur politique fort. Pour tout le reste, il y a le fort commode en même temps. Emmanuel Macron défend un souverainisme européen, c'est-à-dire une Europe plus forte vis-à-vis du reste du monde, mais aussi vis-à-vis de ses pays membres. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a donc une cohérence à voir ce drapeau européen seul sous l'Arc de Triomphe, sans le drapeau français. Mais ce qui peut être considéré comme de la clarté politique est aussi une grosse maladresse, sinon une faute politique. La preuve, le drapeau a été retiré dans les 48 heures après son installation.
Pourquoi les adversaires d'Emmanuel Macron à la présidentielle ont-ils réagi si promptement d'ailleurs ?
Ils sont tombés volontairement et en toute connaissance de cause dans le piège de cette présidence européenne bien trop instrumentalisée par Emmanuel Macron, jusqu'à en faire eux aussi un peu trop. Éric Ciotti, au grand jury RTL hier, a estimé qu'Emmanuel Macron n'aimait pas la France. Président déraciné, il est plus mondialiste que français, a-t-il dit. Nous verrons tout à l'heure si Valérie Pécresse ramènera un peu de nuance.
Alors Valérie Pécresse est donc l'invitée de nos petits déjeuners de campagne ce matin sur RTL dans une vingtaine de minutes. Les candidats sont donc très sensibles, nous l'avons compris, cette question européenne. Qu'en est-il des Français ?
Dans sa dernière grande enquête sur les fractures françaises, Ipsos, pour Le Monde, a sondé à la rentrée l'état de l'opinion sur cette question. Et grosso modo, les pro-européens BA, ceux qui sont contents de l'Europe, c'est presque un quart des Français. Les pro-européens insatisfaits, c'est la moitié. Et le dernier quart rejette l'Europe. Et dans le débat actuel, un autre chiffre est fort instructif. 6 Français sur 10 estiment qu'il faudrait redonner plus de pouvoir de décision à notre pays et limiter celui de l'Europe. Voilà qui explique ce week-end de polémique express autour d'un drapeau.
Merci beaucoup Olivier Bost. On vous retrouve bien entendu comme chaque jour sur le site RTL.fr. Et puis je vous rappelle notre 5e petit déjeuner de campagne avec Valérie Pécresse, candidate des Républicains. Vous pourrez l'interroger, vous, dans une heure. Appelez-nous dès maintenant au 3210 ou au 64 900 avec le code matin par SMS. Et puis, elle sera avec nous donc d'ici une vingtaine de minutes pour la grande interview avec François Langlais et Alba Ventura. Dans un instant, nous allons faire le point sur le casse-tête de l'organisation dans les transports avec notre brigade RTL. Et nous irons dans un hôpital d'Île-de-France où les non-vaccinés saturent les services et causent bien du souci aux soignants.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h15 et alors que beaucoup d'entre vous reprennent le travail ce matin, les transports sont évidemment cruciaux, mais avec presque 1 million de cas positifs la semaine dernière et des milliers d'arrêts maladie. Est-ce que tout cela va bien fonctionner? C'est l'objet de la brigade RTL ce matin avec vous Arnaud Touche, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Est-ce que les perturbations sont à prévoir dès ce matin?
C'est possible, notamment sur les réseaux de bus, même si pour le moment ils tiennent le coup. Je pense notamment à la RATP qui a indiqué la semaine dernière qu'elle pourrait adapter son plan de transport s'il y avait trop d'arrêts maladie. On va le savoir très vite ce matin. À Caen, la semaine dernière, certains départs n'ont pas pu être effectué à cause de la multiplicité des cas contacts. Inquiétude aussi pour les transports scolaires. Des parents ont d'ores et déjà reçu des mails ce week-end indiquant que des transporteurs risquaient de ne pas pouvoir assurer des tournées ce matin à cause de la pénurie de chauffeurs testés positifs. Et c'est très concret. Ce matin en Moselle, par exemple, 177 chauffeurs de bus manquent à l'appel et les plans de transport sont modifiés dans le département. Par ailleurs, on le rappelle, le masque est désormais obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans, dans les cars scolaires notamment.
Sur les rails, Arnaud, ça devrait aller?
Là oui, clairement ça devrait aller avec quelques risques sur le TER, mais c'est limité. Il y a bien des conducteurs de trains remplaçants sur les trains régionaux, mais ils sont moins nombreux que sur les lignes nationales empruntées par le TGV Inouï ou les Ouigo. Il faut savoir en fait que chaque jour, il y a des conducteurs qui sont d'astreinte dans les grandes gares françaises en cas d'absence d'un agent de conduite. C'est eux qui prennent les commandes du TGV. Mais attention, le conducteur ne peut conduire que sur les lignes sur lesquelles il est certifié et avec un train bien particulier. S'il est certifié, par exemple, sur le Paris-Marseille en TGV, il ne pourra pas faire le Paris-Lille. Au pied levé, seuls quelques conducteurs en France ont cette certification. Une trentaine, m'a-t-on expliqué. Voilà pourquoi ce système a tout de même une limite.
Il y a le même système de réserve pour les avions?
Absolument. Mmh. À l'aéroport de Roissy, chaque jour, des pilotes, hôtesses et stewards d'Air France attendent d'être déclenchés en cas d'absence inopinée d'un de leurs collègues. Résultat, le vol pour donc se faire. Et ce sont des employés de réserve qui ne savent donc pas à l'avance sur quel vol ils vont partir. Et leur nombre est augmenté en cas de besoin, notamment en fonction de l'évolution de la pandémie. C'est la même chose chez EasyJet, par exemple. Et la taille de ces équipes de réserve varie chaque semaine.
Alors, est-ce que les nouvelles mesures qui concernent l'isolement ou le télétravail vont améliorer les choses?
Oui, clairement, oui. Car déjà les cas contacts vaccinés, ils vont pouvoir continuer à travailler. Ça, c'est une bonne chose, notamment pour les bus, on l'a vu, ce qui fera baisser la tension sur les effectifs. Et n'oublions pas non plus qu'il devrait y avoir, théoriquement, moins de monde dans les transports, parce qu'à partir d'aujourd'hui, il y a 3 jours de télétravail obligatoire. Oui. Conséquence immédiate en Normandie ou dans les Hauts-de-France, par exemple, cette semaine, il y aura moins de trains dans ces régions, non pas par manque de conducteurs, non, mais car la SNCF, elle anticipe tout simplement une baisse de fréquentation.
Merci beaucoup Arnaud Touche, notre spécialiste transport à RTL. Nous suivrons l'évolution de la situation dans les prochains jours avec vous.
RTL événement.
Il est 7h18, le gouvernement met donc la pression sur les opposants au vaccin. Olivier Véran exhorte les 5 millions de Français concernés à se faire vacciner au plus vite. Sinon, on ne s'en sortira pas, martèle le ministre de la Santé. On ne s'en sortira pas. Dans les hôpitaux de la PHP, près de 70% des patients en réanimation n'ont reçu aucune dose. Certains médecins pointent du doigt ces non-vaccinés, responsables selon eux de la saturation du système de santé. Bonjour Gauthier de Lombugard.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous nous proposez ce matin un reportage exceptionnel dans le service de réanimation de l'hôpital Louis Morier à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. La colère des soignants commence à s'exprimer dans les couloirs.
Les portes battantes gris clair s'ouvrent et dévoilent derrière elles le service de réanimation du professeur Jean-Damien Ricard.
Actuellement, nous avons 9 patients dans le service. 7 sont hospitalisés pour une infection sévère à Covid.
Les chambres entourent un imposant îlot central, le cœur du service avec des ordinateurs, des machines où sont répertoriées les constantes et les informations sur les patients.
Les patients actuellement sont très majoritairement non vaccinés, à plus de 75%. Et ceux qui sont vaccinés, soit sont en fin de deuxième dose, et donc auraient dû faire leur troisième dose, n'ont pas eu le temps de la faire, soit sont des patients pour lesquels la vaccination est un petit peu moins efficace, qui sont les patients immunodéprimés.
Nous déambulons avec le chef de service face à nous. La dure réalité de la réanimation et la violence des formes graves de Covid.
Allez, toussez, monsieur.
Les jambes de ce patient intubé tremblent, la bouche ouverte, la tête en arrière. Ce sexagénaire au visage émacié se met même à avoir quelques spasmes.
On respire bien.
Dans la chambre voisine, cet homme est endormi sur le ventre.
On les met comme ça pendant plusieurs heures sur le ventre pour essayer de réaérer les zones du poumon qui sont les plus impactées. Donc ça, c'est un patient qui n'est pas vacciné, qui a contracté le Covid il y a une quinzaine de jours et donc qui présente une forme extrêmement sévère. Là, on a un patient qui est lui aussi non vacciné.
C'est un patient jeune.
Oui, c'est un patient jeune. Ils sont entre 55 et 65 ans pour la plupart. On a eu pas mal de femmes enceintes ces dernières semaines avec des formes graves. Donc ça, c'est quelque chose d'assez préoccupant. Évidemment, il faut que toutes ces femmes soient vaccinées, même pendant leur grossesse.
Alors face à tous ces malades non vaccinés, comment réagissent les soignants ?
Ilia et Afida, une infirmière et une aide-soignante, nous racontent leur lassitude, l'impression d'un jour sans fin.
On pense, on arrive sur un moment de répit, on pense que ça c'est fini, sauf que non, il y a encore une autre vague, des nouveaux variants qui arrivent. Et c'est un peu frustrant que nous, on nous oblige à nous vacciner pour soigner des gens qui ne sont pas vaccinés ou qui ne veulent pas se faire vacciner. Enfin,
il désature ou des coups ?
On vient de bouger la tête.
Ah, on vient de bouger la tête pour la
vaccination. Il y a une fatigue qui s'installe, physique et psychologique. La plupart sont non vaccinés, ça il faut vraiment le dire, que même ceux qui sont vaccinés, au moins, ils repartent rapidement de l'hôpital. Et oui, ça, c'est vrai que ça fait une colère, mais bon, voilà, ça n'empêche pas qu'on est là pour les soigner, qu'on est là pour vraiment faire les choses le mieux possible, même pour eux. Oui. Ça a été un choix, un mauvais choix, peut-être, mais voilà.
Oui, vous êtes soignant et vous l'êtes jusqu'au bout.
Jusqu'au bout, tout à fait.
Donc là, c'est votre bureau.
Là, c'est mon bureau.
Voilà. Quand vous voyez tous ces non-vaccinés, qu'est-ce que ça vous fait dire ?
C'est dommage de les voir en réanimation avec des formes très sévères, la possibilité de séquelles, une possibilité malheureusement de décès, et de se dire que la vaccination aurait permis d'éviter cette hospitalisation ou en tout cas au moins ce passage en réanimation. Et puis comme vous l'avez dit, effectivement à titre collectif, ça nous questionne sur la juste distribution des soins qu'on va donner à l'ensemble des patients, parce que évidemment, ces patients non vaccinés occupent une place très importante à l'hôpital, qui évidemment gêne le fonctionnement normal de l'hôpital et l'accès aux soins des patients qui nécessitent une prise en charge autre que pour le Covid et qui pour la plupart en plus sont vaccinés.
La crainte du professeur est désormais de voir déferler une nouvelle vague de non vaccinés dans son service. Le variant Omicron pourrait conduire à la saturation des hôpitaux.
Vous avez bien entendu, hein, des femmes enceintes, des patients parfois plus jeunes qu'on ne l'imagine. Il peut y avoir et il y aura des séquelles, nous disent tous les médecins que nous avons rencontrés. Et tous ceux qui étaient en réanimation étaient des non-vaccinés. Merci Gauthier Delon-Bugard. RTL événement à retrouver sur RTL.fr.
RTL matin, Yves Calvi.
Il est 7h23, c'est notre première pépite de l'année.
Et oui, bonjour Yves, bonjour à tous.
Bonjour cher Anthony, on vous écoute.
Ben on va se dire bonne année en
avec
musique.
Plaisir.
Saviez-vous qu'une des premières cartes de vœux musicales date de 1819, signée Beethoven pour sa confidente, la comtesse Marie von Erdödy. Beethoven lui avait composé ce canon pour trois voix, Gluck Gluck Som Neujahr, qui veut dire bonheur, réussite pour la nouvelle année.
Gluck Gluck Som Neujahr.
Ah oui, Gluck.
Bonheur, réussite pour la nouvelle année.
Très
c'est un
bien.
Peu âpre, mais c'est une carte de vœux musicale. Dans les années 50, deux chansons de bonne année. Tout d'abord, celle d'Henri Salvador.
Bonne année. Bonne année les amis, bonne année, encore une de finie, mais voilà une autre qui commence, et d'un pas léger, entrons dans la danse, bonne année, le dernier coup de minuit vient de sonner, et debout sous le gui, on échange de grosses bises, et l'on se fait des surprises. C'est un joli briquet pour monsieur qui fume beaucoup.
C'est les années 50, hein. Mais de la légèreté, ça fait du bien.
Oui.
Deux ans plus tard, en 59, une petite merveille pour le coup, hein. 45 tours de Bourville, bonne année. Bourville se moquait des faux culs.
Je connais des Jules et leur rombière qui jouent les ducs et les barons et qui se coiffent à coups de soupière dès qu'ils discutent à la maison. Puis font entendre le vocabulaire crevard, fouilleux, fesse de merlan. Il gueule comme ça l'année entière, mais il se murmure au jour de l'an. Bonne année, bonne santé, cher âme, ma coccinelle, mon gros poupou, mon minet, mon loulou. Jure-moi que sans mon amour, tu ne pourrais pas vivre un jour. Bonne année, bonne santé, mais le drame, c'est que pendant tous les jours suivants, jusqu'à l'autre jour de l'an, il se redisent tendrement, tordu, punaise et peau d'aran. Dans tous les coins de la planète.
Ouais, bon, il a interprété. Bon, il peau d'aran. Oui, c'est pas mal. Interpréter cette chanson. Bon, oui, bonne année dans l'opérette Pacifico. Paroles et musique de Camille François et Jean Moutet. Faut les citer parce que c'est très bien écrit.
Au jour de l'an. Et si la vie a peu de sourires, on la supporte allègrement. Tant que l'on peut s'entendre dire bonne année, papa et maman. Bonne année, bonne santé, monsieur dame. Voilà le nouvel an, tout neuf. Solide comme le pont neuf, il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver.
Bonne année.
Bonne année, bonne santé, monsieur dame. Et souhaitons que dans 100 ans, on puisse comme à présent se redire de tout cœur tous nos meilleurs voeux de bonheur.
C'est charmant, c'est pour ça que nous en avons profité jusqu'au bout.
Jusqu'au bout, ouais.
Et c'était notre première pépite musicale de l'année. Il y en aura beaucoup d'autres grâce à vous, Anthony Martin. Merci beaucoup, à demain.
À demain.
Dans un instant, nous allons retrouver nos grosses têtes, bien entendu, et puis surtout notre météo complète avec vous, Louis Baudin. Bonjour.
Bonjour,
bonne année, cher Louis. À tout de suite. C'est que Cyril Lignac nous propose ce matin une recette de gratin dauphinois. Ce sera juste avant 9h. Il faut dire que cette nuit à l'Assemblée, pour l'examen du pass sanitaire, c'était franchement gratiné. Nous sommes le mardi 4 janvier 2022. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Alexandre Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, ce coup de théâtre rarissime à l'Assemblée nationale, l'examen du pass vaccinal a été interrompu.
Les députés ont refusé de poursuivre les débats après minuit. Conséquence, le projet du gouvernement risque de prendre du retard. Jumeaux jusque dans leur mort, Igor Bogdanov, décédé moins d'une semaine après son frère, lui non plus n'était pas vacciné. L'inquiétude des pharmacies et des laboratoires submergés sous une avalanche de tests face à l'explosion du variant Omicron. Et puis 1000 km d'autonomie pour une voiture électrique. Non, vous ne rêvez pas. On va tenter de comprendre cet exploit signé Mercedes.
La politique avec vous, Olivier Bost.
Et dans la vague Omicron, la question pour le gouvernement, c'est de quel côté la pièce va-t-elle tomber ?
Vos explications dès la fin du journal.
RTL Matin.
L'opposition parle d'un camouflet pour le gouvernement et la majorité a bien du mal à masquer son agacement. Le gouvernement avait mis le paquet pour accélérer l'adoption du texte par l'Assemblée nationale. Les débats auraient dû durer jusqu'au matin, mais à minuit, surprise, les députés ont voté une suspension de séance, Thomas Desprez.
Oui, on peut clairement parler d'un coup de théâtre, une scène rarissime à l'Assemblée.
Bien, qui est pour ?
Il était un peu plus de minuit quand, à main levée, les députés de l'opposition, tous bords confondus, ont décidé de stopper net l'examen du texte.
Qui est contre ?
Contre l'avis du gouvernement. Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois.
Ça signifie que malheureusement, nous qui comptions terminer le texte ce soir pour qu'il puisse être transmis au Sénat et donc s'appliquer le plus rapidement possible, cela est contrarié.
Chez les Républicains, Damien Abad évoque l'impréparation de la majorité et les mauvaises manières faites au Parlement.
C'est un débat important qui mérite qu'il soit fait en journée, en respectant le Parlement, en respectant les oppositions et pas à l'invective. Donc c'est à eux de prendre leurs responsabilités.
Alors après cet incident, selon un cadre de la majorité, difficile d'entrevoir une entrée en vigueur du pass vaccinal avant le 15 janvier, date fixée par le gouvernement. Peut-être faudra-t-il siéger ce week-end, mais nul doute que le texte finira par être adopté.
Thomas Desprez du service politique de RTL.
Des jumeaux passionnés par la science et pourtant ils n'étaient pas vaccinés après Grishka. Igor Bogdanov est donc mort hier soir.
Les jumeaux stars de la télé dans les années 80 ont été emportés tous les deux à 6 jours d'intervalle. Ils avaient 72 ans, Laurent Marsic. Jusqu'au bout, les frères Bogdanov auront été indissociables, liés, unis.
Oui, unis jusque dans la mort, unis comme ils l'ont toujours été dans la vie et à la télévision, qui a fait d'eux des stars. On ne connaît pas tout des circonstances de leur disparition. On sait qu'ils avaient tous les deux été hospitalisés mi-décembre, positifs au Covid. Et comme le confirmait hier soir leur avocat, maître Édouard Delamaze, aucun des deux n'était vacciné.
tout ce que je dis et que je répète, c'est que ce n'étaient pas des anti-vaccins. C'étaient des scientifiques qui connaissaient l'importance du vaccin et qu'ils ne se sont jamais, jamais engagés comme anti-vaccins.
Il y a six jours, Grishka disparaissait, emporté lui aussi par le Covid. Il semble que la famille ait protégé son frère, Igor, jusqu'au bout. Il n'était pas au courant de la disparition de son double. Igor Bogdanov avait six enfants, nés de plusieurs unions. Grishka était lui célibataire et sans enfants. Les deux hommes avaient encore plein de projets à la télé avec le producteur et animateur Cyril Hanouna. Et dans l'édition, ils voulaient faire paraître une suite de leur premier livre, Dieu et le silence. Ils projetaient même, selon nos confrères du Parisien, de rencontrer le pape François.
Laurent Marsic pour RTL.
Dans les hôpitaux, la pression de la cinquième vague continue d'augmenter, plus de 9000 hospitalisations en une semaine.
Et ça risque de continuer encore à monter avec des pics à plus de 200 000 contaminations ces derniers jours, même si les cas graves semblent moins nombreux grâce à un variant apparemment moins dangereux et grâce au vaccin surtout. Dans les Bouches-du-Rhône, la vague Delta est en train de déferler avant celle d'Omicron. Les services de réanimation sont déjà saturés, les déprogrammations nombreuses. Certains patients ont même dû être transférés vers d'autres régions. Reportage en immersion dans le service de réa de l'hôpital Nord de Marseille, Étienne Bonu.
Sur les 20 lits que compte le service, presque la moitié, 9, sont occupés par des patients Covid. Leur moyenne d'âge, 52 ans, et un point commun, tous sont des non-vaccinés. Le service est saturé, se désole son patron, le professeur Marc Léon, et les déprogrammations d'opérations sont légion.
Les ligaments croisés attendent, la prothèse de hanche attend, et la prothèse de hanche, elle attend depuis très longtemps, et ça devient vraiment très pénalisant pour les gens qui sont sur ces listes d'attente.
Et puis impossible aussi d'ouvrir de nouveaux lits, faute de personnel. Il manque par exemple à l'hôpital Nord, 45 infirmières. Avec cette crainte supplémentaire, la vague du variant Omicron arrive et ce variant étant plus contagieux, le risque que les soignants eux aussi tombent malades augmente.
On craint un absentéisme majeur qui risque de nuire à nos fonctionnements. Et puis après, est-ce qu'on va avoir que des formes bénignes ou est-ce que sur cette masse, finalement, on ne va pas avoir un nombre d'hospitalisations conséquent qui va mettre en péril nos organisations.
Et pas question d'attendre des renforts, cette fois-ci, explique Amandine, infirmière depuis 15 ans dans le service.
La première, deuxième, troisième vague, on fait du mal au niveau des renforts. Ce sont des personnes qui ont eu très peur, qui ont été forcés de venir, donc ils ne reviendront pas. Il faudra que nous-mêmes, on pallie au manque de personnel en supprimant nos congés, en revenant de nos vacances et en prenant des heures supplémentaires.
Bref, un service de réanimation, lui aussi, au bout du rouleau.
Étienne Baudu à Marseille pour RTL.
8 mois, jour pour jour après le féminicide très violent chez Chaïnès Daoud à Marignac, 6 policiers vont comparaître aujourd'hui devant des conseils de discipline.
Le 4 mai 2021, cette mère de famille avait été brûlée vive en pleine rue par son mari alors qu'elle était en train de se séparer de lui et qu'elle avait déjà déposé plainte pour des violences un mois et demi auparavant. Il y a eu plusieurs dysfonctionnements dans cette affaire. Guillaume Chiez, c'est là-dessus que les policiers vont devoir s'expliquer.
Oui, la procédure aurait pu se solder par une simple sanction comme le préconisait l'IGPN, mais le directeur général de la police nationale a décidé que les 6 fonctionnaires devaient passer devant un conseil de discipline. Tous, du plus bas échelon jusqu'au plus haut niveau du département, sont soupçonnés d'être impliqués de façon directe ou indirecte dans les dysfonctionnements qui ont conduit au meurtre de Chaïnès Bouta. Un commandant de police, par exemple, aurait mal évalué la gravité de la situation de la jeune femme. Une autre n'aurait pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour retrouver Mounir Bouta, son meurtrier. Les conseils de discipline proposeront ensuite des sanctions pouvant aller du simple avertissement jusqu'à la révocation. Dans ce dossier, un policier a déjà été lourdement sanctionné. C'est lui qui avait recueilli la plainte de Chaïnès, plainte qui a ensuite été mal transmise au parquet. Cet homme a été radié pour 1 an des effectifs de la police nationale après avoir été lui-même condamné pour des violences conjugales.
Les précisions de Guillaume Chiez du service police-justice de RTL. Les Balkany vont-ils retourner en prison? Condamnés pour fraude fiscale, Isabelle et Patrick Balkany purgent actuellement leur peine de 3 ans de prison chez eux, mais leur placement sous bracelet électronique vient d'être révoqué le mois dernier suite à une centaine d'incidents de sonnerie. Un peu de désinvolture, reconnaît leur avocat. Pour l'instant, le couple a fait appel de cette décision. En attendant, ils portent toujours leur bracelet électronique.
RTL, il est 7h07. Le talon d'Achille des voitures électriques appartient-il au passé? Mercedes présente une berline capable de rouler 1000 km en une seule charge.
L'autonomie reste souvent le principal frein à l'achat d'un véhicule électrique avec son prix, c'est sûr. Le prix de cette Mercedes, ce concept car on ne le connaît pas encore, mais son autonomie promet de battre des records. Christophe Bourou, d'habitude pour un véhicule électrique, c'est environ 300 km d'autonomie, peut-être un peu plus parfois. Alors plus de 1000 km, comment c'est possible?
Eh bien, pour arriver à un tel résultat, Mercedes a puisé dans son savoir-faire en Formule 1. Les ingénieurs ont ainsi réduit la taille de la batterie, comme l'explique Julien Velli de Mercedes-Benz France.
Nos ingénieurs ont travaillé pour diminuer d'à peu près 50% le volume occupé par cette batterie et de près de 30% également son son poids.
Plus légère et plus efficiente, ainsi en à peine un quart d'heure de branchement, vous récupérez jusqu'à 300 km d'autonomie. Tout est donc conçu pour grappiller de l'énergie, y compris sur le toit.
Des panneaux solaires sur le toit qui vont alimenter certains systèmes électriques, consommer moins d'énergie et permettre de gagner jusqu'à 25 km d'autonomie.
Enfin, gros travail sur l'aérodynamisme. Sur autoroute, par exemple, l'arrière s'allonge et devient plus profilé. Résultat, cette Mercedes affiche une consommation rikiki, comme une voiture diesel, voire beaucoup moins, l'équivalent d'à peine 1 litre aux 100 km. Bref, de quoi effectuer un Paris-Berlin, soit un peu plus de 1000 km sans s'arrêter.
Et ben ça promet, les explications de Christophe Bourou, le spécialiste auto de RTL.
Le football, le Paris Saint-Germain démarre l'année en trombe, victoire 4-0 hier à Vannes.
Les Parisiens qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, grâce notamment au triplé de Kylian Mbappé. Les Bretons n'ont pas tout perdu, hein. Alexandre Lavenant, le défenseur de Vannes, a pu récupérer le maillot du triple buteur.
C'était pas prévu du tout, je savais pas trop à qui j'allais le demander, j'essaie d'y penser le moins possible, et du coup là pendant le match à la toute fin, je lui ai dit que si on terminait la rencontre à côté, est-ce qu'il me le laissait ? Donc il m'a dit oui, pas de souci. Donc c'est super et je vais le garder précieusement.
Des propos recueillis par Philippe Audouin pour RTL. Le dernier match des 16e de finale de la Coupe de France, c'est ce soir. Derby entre Lens et Lille à suivre à partir de 21h.
On termine avec les courses qui ont lieu à Vincennes aujourd'hui.
Les pronostics de Dominique Cordier pour le Quintet. Il vous conseille de miser sur le 11, le 2, le 6, le 9, le 16, le 13... Et le 8, la dernière minute de Dominique Cordier, c'est le numéro 6, Equinox.
Et le journal de 7h nous était proposé par Alexandre de Saint-Aignan. Il est 7h10, on retrouve notre éditorial politique avec vous, Olivier Bost. Bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Le gouvernement a été contrarié par les députés à l'Assemblée. Le pass vaccinal sera retardé. Qu'est-ce qui se passe, Olivier ?
Eh bien, le gouvernement est en fait dans un en même temps compliqué. Il envoie un message d'optimisme et en même temps de contraintes supplémentaires, de fermeté. Rien de tout cela n'est bien sûr déconnecté d'une période politique particulière dans laquelle nous sommes entrés. Nous sommes désormais en campagne électorale pour la présidentielle, puis ensuite pour les législatives. Pour l'élection des députés, tous les ingrédients pour un moment politique tendu, piégeux et délicat.
Pourquoi dites-vous que le gouvernement est partagé justement entre optimisme et fermeté ?
Alors nous avons bien écouté les vœux d'Emmanuel Macron vendredi soir. 2022 sera peut-être l'année de sortie de l'épidémie, a-t-il dit. Nous avons aussi lu et pu écouter le ministre de la Santé, Olivier Véran, dire entre autres que la vague Omicron serait sans doute la dernière. Il est évident que l'exécutif a besoin d'entretenir l'espoir pour ne pas voir l'élection présidentielle s'embourber dans le sanitaire. Sauf que, comme l'a souvent rappelé Emmanuel Macron, c'est le virus, le maître des horloges. La vague du variant Omicron, conjuguée à la vague précédente, crée en fait une situation sanitaire imprévisible. Un conseiller du gouvernement résume la situation. Personne ne sait de quel côté la pièce va tomber. Ou Omicron, bien moins dangereux, permet vraiment d'en finir, c'est ce que semble indiquer la situation en Grande-Bretagne, ou Omicron submerge non plus les seuls lits de réanimation, mais l'hôpital dans son ensemble. C'est un scénario que n'écarte pas Olivier Véran, qui a parlé hier à l'Assemblée nationale de la vague Omicron comme d'un raz-de-marée vertigineux. Je ne vais pas vous dire que la semaine prochaine est décisive, parce que nous l'avons déjà bien dit trop souvent. Simplement, nous allons regarder de quel côté la pièce va tomber.
Quel est le rapport avec ce qui s'est passé à l'Assemblée cette nuit? Les députés ont décidé de ne pas achever après minuit l'adoption du pass vaccinal. Pourquoi ?
Eh bien, un incident à l'Assemblée n'est jamais anodin. Alors, ce n'est pas toujours grave, n'exagérons rien, mais jamais insignifiant. La vaccination est la stratégie massive du gouvernement pour éviter d'aller plus loin. Plus loin, c'est le retour des couvre-feux et des confinements. Mais la politique est venue freiner cette nuit cette course de vitesse. Il y a dans cette obstruction de la politique à courte vue, on va dire, les députés ont besoin d'être réélus en juin prochain, et avant cela, il y a la présidentielle. Mais pas seulement. Les restrictions de liberté passent de plus en plus difficilement et demandent un large consensus qu'Olivier Véran, parfois sûr de lui, n'est pas allé chercher hier soir. Il faut se souvenir que le dernier prolongement du pass sanitaire, en octobre dernier, avait été adopté à une petite voix près.
Oui.
Cette nuit, les députés ont refusé de continuer de travailler après minuit, ce qui va simplement retarder le processus. Ils donneront peut-être le temps de voir de quel côté la pièce va tomber.
Merci beaucoup Olivier Bost, on vous retrouve sur RTL.fr et je vous rappelle qu'à 7h40, c'est bien Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, qui sera l'invité d'Alba Ventura sur RTL. Beaucoup de questions notamment sur l'impact économique de cette vague de coronavirus avec le variant Omicron. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h13. La France a connu la fin d'année la plus douce jamais enregistrée depuis 1947. Avec des records remontant parfois à près de 100 ans dans plusieurs villes de France. Plus de 20 degrés à Marseille et à Nice la veille du réveillon. Ces météos bizarres vont-elles devenir la norme? C'est l'enquête de notre brigade RTL ce matin. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour à tous.
Alors, va-t-il falloir s'habituer à manger en terrasse à Noël?
Sans doute, parce que ça fait 8 ans déjà que les températures l'hiver en France sont plus chaudes que la normale. Le dernier hiver très froid date de 2012. Alors ces météos atypiques deviennent de plus en plus fréquentes avec le dérèglement du climat. C'est agréable de manger en terrasse en décembre, mais il y a des impacts plus inquiétants. On a eu cette année du gel en avril, plus de 5 milliards d'euros de dégâts sur les vignes, des inondations dans le sud-est au printemps, dans le Gard ou au Pays Basque en octobre.
Bon, en France, la nature n'y comprend plus rien en ce moment. Hein.
Oui, on a en ce moment des noisetiers qui bourgeonnent dans le Jura avec des abeilles qui sortent butiner alors qu'elles devraient se reposer dans la ruche pour passer l'hiver. Les apiculteurs sont assez inquiets dans toutes les régions. D'ailleurs, les abeilles se croient au printemps. On a des rosiers en fleurs en Touraine, des rhododendrons en Bretagne. Alors à cette époque, les arbres se protègent et fabriquent une sorte d'antigel. Et bien là, ils ne le font pas, et gare au gel, car il y en aura.
C'est bizarre chez nous, c'est encore plus bizarre ailleurs. Hein.
Ah oui, au Texas, à Falcon Lake, il faisait le 1er janvier 37 degrés. Record absolu dans cet état américain en janvier. Et bien le lendemain, il faisait moins 11 degrés, 40 degrés d'écart dans le même état en 24 heures. Alors cette année, on a eu des inondations terribles au Canada, en Belgique, en Allemagne, plus de 170 morts, des cyclones en Inde, au Bangladesh. Les assureurs prévoient que les dégâts des sinistres climatiques vont doubler d'ici à 2050.
Les conséquences sont très concrètes hein, pour les agriculteurs. Le tourisme?
Oui, et même pour tout le monde. Yves, vivre dans une grande ville l'été devient un défi. Le tourisme, effectivement, est impacté avec des plages qui sont grignotées par la mer, la neige qui va manquer dans les stations. Ce sont les maladies aussi. Les épidémies viennent des animaux. Les experts des Nations Unies prévoient 6 ou 7 pandémies comme le Covid par siècle si on continue à malmener la nature, notamment à détruire les forêts.
Bon, les réponses ne sont pas à la hauteur.
Ah non, pour avoir une chance d'inverser la tendance, il faudrait que les émissions de gaz à effet de serre aient commencé à baisser. Eh bien, elles continuent d'augmenter. À la conférence de Glasgow sur le climat, il y a eu des avancées, mais très insuffisantes. Il y avait un espoir que les énormes quantités d'argent investies pour relancer l'économie avec le Covid le soient dans des technologies vertes. Eh bien, il y en a eu, mais pas tant que ça. Et beaucoup de pays comme la Chine ont même relancé leur croissance avec le charbon. Il y a encore du travail.
Merci beaucoup Virginie Garin, notre spécialiste environnement RTL. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 8h30. D'ailleurs, Olivier Bostra avec nous pour notre tout nouveau rendez-vous France 2022. Les experts de la rédaction qui nous éclairent chaque jour sur un thème crucial en vue de la présidentielle. Et ce matin, nous nous demandons justement qui s'inquiète du climat et du changement dans nos vies. Rendez-vous donc à 8h30 pour notre rendez-vous France 2022. Dans un instant, immersion auprès des pharmaciens qui travaillent d'arrache-pied depuis 2 ans. Nous serons avec Vincent Serrano pour ce RTL événement. A tout de suite.
RTL événement
est consacré ce matin à nos pharmaciens qui, depuis bientôt 2 ans maintenant, travaillent sans relâche pour nous aider à lutter et puis à vaincre cette pandémie. Une profession qui ne compte plus ses heures, et c'est ce que nous allons voir avec vous, Vincent Serrano. Bonjour.
Bonjour.
Test, autotest, vaccination, conseil, enfin bref, vous avez passé la journée dans une pharmacie du 17e arrondissement de Paris où ça n'arrête pas une minute et je dirais même une seconde, plus encore avec l'arrivée du variant Omicron et le nouveau protocole sanitaire.
Oui, et c'est peu de le dire, on est ici dans une toute petite pharmacie qui fait 30 mètres carrés, il y a 10 personnes à l'intérieur, il y en a une vingtaine qui attendent dehors et ça toute la journée. Alors je suis derrière le comptoir, derrière les 2 petites vitres en plexiglas avec Julie, la pharmacienne. Julie, quand on parle de première ligne, c'est ça?
Bah quand on voit là, quand on arrive le matin et qu'on a 10 personnes, oui, on peut stresser, enfin, il faut qu'on assure tous les niveaux. Quoi.
Surtout qu'il y a eu les fêtes, puis maintenant il y a le nouveau protocole sanitaire, notamment dans les écoles, les collèges, les lycées.
Ouais.
Ça fait encore plus de monde qui vient tous les jours.
Ouais.
Il suffit de regarder derrière la vitre, il y a allez, au bas mot une dizaine d'étudiants, de lycéens là, du trottoir d'en face qui viennent d'arriver. Mais vous savez qu'il y a déjà une très forte chance que ce soit pour un test.
Exactement, il y a quand même beaucoup de chances, surtout que je leur pose la question, effectivement. Pourquoi vous venez alors?
Des autotests qui sont vendus 4 euros. Je vous laisse servir, mademoiselle.
Enfin, vous tournez déjà bien au moins 5-6 fois un
moment. Oui, j'en ai déjà fait.
J'en avais déjà fait. Dans la solution, vous regardez 15 minutes, quoi.
Ok, merci.
Autotest, mademoiselle, pour le lycée?
Oui. Du coup, le petit ticket, il est là, c'est pour ma collègue. Je laisse attendre là-bas.
Ok, ça marche.
Bonjour.
C'est pour faire un test antigénique, s'il vous plaît.
On demande même plus la raison du test.
Non, j'essaie de pas trop perdre de temps, à vrai dire.
J'étais qu'à contact, là, en vacances en Finlande.
Pardon, Julie, hein, mais j'ai un peu l'impression... D'avoir affaire à un robot.
Oui, c'est vrai. Après, on va faire une petite pause, donc je vais...
Ah, quand même.
Ça va me permettre d'enregistrer les dossiers.
une pause entre guillemets, quoi.
Ouais, c'est ça.
Julie qui a très peu de temps pour elle, je la vois passer d'un écran à l'autre. Il n'y en a que deux dans cette toute petite pharmacie qui est encore une fois remplie. Encore 10 personnes qui attendent à l'extérieur.
Du monde en plus, donc plus de travail. Est-ce qu'elle part quand même travailler avec le sourire ?
À Julie, je voulais déjà poser, mais cette lassitude, elle est présente ou pas ? Est-ce qu'on aime encore son métier ?
Oui, mais on ferait bien une petite pause dans le Covid. On aime encore son métier, mais il a changé.
Merci.
Au revoir. Bonjour.
J'ai eu que deux doses. Si j'ai pas la troisième dose avant février.
Bah, je peux vous la faire tout de suite, moi, la troisième dose. Hein. Je l'ai là. Et Moderna, après, c'est pareil que vous fassiez. Pfizer, Moderna, c'est un rappel. Donc, il n'y a pas de problème de changer. Au contraire. Hein.
Vous êtes devenue une encyclopédie du Covid et des vaccins.
Ouais. Et des masques. Et des gels hydroalcooliques. Et oui, dans beaucoup de domaines.
Bonjour monsieur, vous venez pourquoi ?
Premier appel. Je sais. Mais non, c'est pas un vaccin, c'est un rappel.
Quand on voit à quel point Julie travaille, le téléphone sonne, la pharmacie est pleine, il y a du monde dehors, qu'est-ce qu'on en pense en tant que...
Que c'est plus une pharmacie, c'est une banque.
Regardez la queue qu'il y a dans la rue, il faut faire la queue pour aller à la pharmacie maintenant.
Bon, dis-moi, je sais pas, c'est...
Il faut bien libérer le haut de l'épaule. Ok ?
Ah, ça fait très mal.
Non, c'est mieux de prendre du paracétamol.
C'est dehors ?
Ouais.
Ah, Julie qui retourne à son comptoir, il y a déjà beaucoup de monde.
Eh ben oui, là il faut y aller parce qu'il y a en plus du monde qui attend dehors. Donc
Ah bah oui, il y a l'étudiante qui est venue faire un test tout à l'heure. C'est positif, c'est ça ?
Ouais, bah oui, parce que c'est pas tellement le moment puisque le concours arrive bientôt.
De dehors, ma collègue elle va vous sortir l'attestation.
Ça marche, merci beaucoup, merci. Ouais, gros coup dur, ouais. J'avoue que c'est pas... voilà. Je suis contente d'avoir des masques roses au moins.
C'est ça aussi, Julie. C'est qu'on donne des tests, mais aussi il y a des mauvaises nouvelles, quoi.
Il y a des mauvaises nouvelles. Bah, le pire, par exemple, une étudiante qui était déjà un peu seule ici à Paris en train de faire ses études. Je lui ai annoncé qu'elle était positive le 24. Elle s'est mise en larmes parce que c'était le moment où elle allait retourner chez elle, quoi.
On comprend bien qu'il ne suffit pas d'être seulement pharmacien, Vincent, que le Covid et tout ce qu'il implique a pris en fait toute la place.
Mais oui, un petit peu l'impression de vivre un jour sans fin, les mêmes tâches qui se répètent, c'est ça, Julie. 80% de votre activité aujourd'hui, c'est du Covid. Test plus vaccin, c'est 140 personnes tous les jours.
Donc oui, c'est fatigant. C'est fatigant psychologiquement, c'est fatigant physiquement, pas comme dans les urgences. Mais oui, on est en première ligne. Bah, on répond à toutes les questions, la porte est ouverte, les gens viennent, ils posent les questions.
Il y a un gros problème aussi, c'est que l'administration ne vous aide pas.
Bah là, regardez le nombre de cases que j'ai à remplir, c'est hyper long. Et en plus, derrière, en fait, il faut aussi voir qu'on est une pharmacie, donc il faut que je fasse mes commandes. Par exemple, là, moi, il faut absolument qu'aujourd'hui je commande du Doliprane, sinon je ne vais plus en avoir.
Il y a un gros souci aussi, Julie, c'est que vous n'êtes que deux.
Bah oui, et ça, sur Paris, ou deux préparateurs même d'ailleurs. Sur Paris. C'est compliqué, vous mettez des annonces, vous n'avez pas de réponse. Ouais. Heureusement que mon mari ne fait pas le même métier et que je suis bien organisée avec les trois enfants parce que la vie de famille, elle en prend un coup. Hein.
Alors peut-être plus avec le sourire, mais en tout cas, Julie reviendra à travailler demain. De toute façon, elle n'a pas le choix, elle n'a jamais changé ses horaires, 8h30, 20h, 6 jours. Par semaine.
Ah bah c'est la sonnette, oui, effectivement.
Merci Vincent Serrano, aux côtés de nos pharmaciens mobilisés pour lutter contre la pandémie. RTL événement est à retrouver sur RTL.fr.
RTL matin, Yves Calvi.
Il est 7h22. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
On vous retrouve avec grand plaisir pour notre pépite musicale et surtout on vous écoute.
Alors l'écrivain Michel Houellebecq est donc une des stars de la rentrée. Oui. Il y a quelques mois, je vous avais fait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, écouter un extrait de son album rock Présence Humaine, sorti en l'an 2000 et dans lequel il déclamait sa poésie. Autre pépite ce matin. Un an avant ce disque, eh bien Michel Houellebecq avait enregistré deux chansons écrites par lui-même et composées par Jean-Claude Vanier. Alors Jean-Claude Vanier, il faut le rappeler, c'est par exemple notamment le créateur avec Gainsbourg de l'album Histoire de Mélodie Nelson.
Oui.
Et dans ces morceaux, eh bien Michel Houellebecq va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il pousse la chansonnette. Ah. On va pas dire qu'il chante,
non.
Mais il pousse la chansonnette. Premier titre, Novembre.
Je suis venu dans le café au bord du fleuve. Un peu vieilli, un peu blasé. J'ai mal dormi dans un hôtel ou chambre neuve. Je n'ai pas pu me reposer. Il y a des couples et des enfants qui marchent ensemble. Dans la paix de l'après-midi, il y a même des jeunes filles qui te ressemblent. Dans les premiers pas de leur vie, je te revois dans la lumière. les caresses du soleil. Tu m'as donné la vie entière et ses merveilles.
Ça vous surprend.
C'est joli et il chante bien.
Novembre, novembre, poème de Michel Houellebecq, réminiscence d'un amour disparu, interprété donc par lui-même. On trouve le poème dans son recueil Configuration du dernier rivage. Jean-Louis Aubert d'ailleurs l'interprétait Novembre aussi dans son album Aubert chante Houellebecq. Alors la seconde chanson enregistrée par l'écrivain à cette époque est beaucoup plus, comment dire, déconstruite, c'est un mot à la mode en plus, et caricaturale. Elle colle à l'image qu'on a de lui, à cette triste mine de droupi. Elle fait sourire quand même. Elle s'appelle Le film du dimanche.
La France a le moral. Y'a que moi qui vais mal. Les indicateurs de la confiance des ménages sont passés au vert, moi je surnage. Je suis fatigué.
Je crois qu'on est gonflé à bloc hein, pour la journée, pour la semaine, même pour l'année.
Okay, la France, j'ai regardé la bonne année sur France 5, donc je le regarde 5 fois par an, autant que m'arrêter tôt dans l'année.
Voilà, c'est Collector, le film du dimanche par Michel Houellebecq.
Tu rentres chez moi et tu me dis bonjour. Tu dis que la vie, c'est pas un mirage. Ce n'est jamais long ni court, c'est une question d'amour.
Une provocation de passer ça à 7h25. Je dois dire qu'on s'est quand même fait plaisir.
On fait des grosses bises à tout le monde.
Oui,
à la bonne journée, avec le sourire.
Merci Anthony, on se dit à demain pour de nouvelles pépites et à tout moment sur l'appli RTL. Au rayon littérature, je vous rappelle que David Fuenchino sera ce matin l'invité de Laissez-vous tenter pour la parution de son nouveau roman jeudi. Il est intitulé Numéro 2 chez Gallimard. Nous parlerons de tout ça, bien entendu, avec Bernard Lehu. Dans quelques instants, un point complet sur notre météo avec vous, Louis Baudin. Bonjour.
Bonjour et de la pluie.
Voilà, de la pluie et de la douceur, tout ce qui nous énerve. Oui. Et notre détour matinal par le grand studio avec les grosses têtes de Laurent Ruquier. Ce sera un plaisir certain et un rendez-vous fixé. A tout de suite.
Le film du dimanche.
RTL Matin.
On retrouve nos grosses têtes en très grande forme en 2022 et ce matin, ils s'amusent avec le tout dernier James Bond.
James Bond, c'était un mec viril, un gars, je veux dire, il n'était pas en train de préparer la bouffe pour sa petite fille dans la cuisine.
Il
était
doudou du gosse.
Et juste, Laurent, mais tout est nul au-delà de ça, dans le film, l'action, l'intrigue...
Elle
est...
Rien, on comprend rien.
Oui, non mais c'est nul en plus, c'est mal foutu, on dirait un épisode de... Je dirais pas le nom, mais bon bref.
De plus belle la vie que j'adore.
On dirait Clem sur France 2. Il y a plus d'action dans Clem ou Joséphine Ange Gardien que dans James Bond. Non mais c'est horrible.
C'est pas faux.
Non mais c'est vrai hein.
Ah non mais le dernier mais James Bond
pour finir,
même Bernard Mabie bouge plus que Daniel Craig.
Mais oui.
Vous auriez pu faire une superbe James Bond girl.
Eh ben je suis allée au casting et j'ai rencontré M. Brody.
Non, c'était Sean Connery encore.
Non, j'avais rencontré M. Brody.
C'était Sean Connery.
C'était pas pour les brigades du tir.
Ils m'ont presque donné envie de voir le film qui ne me tentait pas à sa sortie. Alors rendez-vous de 15h30 à 18h sur RTL avec Laurent bien entendu et aujourd'hui toute son équipe. Sébastien Thoen, Isabelle Mercot, Ariel Dombal, Florian Gazan, Christine Ockrent et François Berléand. Dès 15h30 sur RTL. Louis Baudin, c'est un mardi pluvieux qui s'annonce.
Oh, bah,
je
ne
sais pas comment
ça,
qualifier les choses.
Très
ennuyeux.
Et très ennuyeux aussi.
Donc
c'est
écoutez RTL, déjà, c'est une bonne chose.
Voilà. La pluie, effectivement, encore de la partie aujourd'hui sur toutes les régions, ou presque, puis continue, puis soutenue. Hein. Depuis 24 heures, on a parfois dépassé les 30 mm de pluie, c'est-à-dire que la moitié du mois de janvier, déjà, c'est fait. Donc voilà, on n'aura pas de sécheresse au mois de janvier avec ces précipitations donc qui vont se poursuivre aujourd'hui quasiment partout, hein, de l'Atlantique au nord-est. Pour échapper à ces pluies, il faudra être dans le quart sud-est, des Pyrénées-Orientales, Languedoc-Roussillon, les Alpes du Sud.
sud, la Côte d'Azur et la Corse, où là, ça restera un peu plus humide. Il y aura aussi des nuages, mais un peu moins d'averses. Ailleurs, donc, de la pluie, du vent, 80-90 km/h, y compris dans les terres. Quelques éclaircies cet après-midi au nord de la Loire, mais avec encore des averses. Et puis, côté température, ah, ça va commencer à bouger. Alors, ce matin, c'est encore très doux, hein, 18 degrés à Biarritz en ce moment, pas de gelée ailleurs, mais cet après-midi, 8 à 10 degrés au nord de la Loire. Donc, ça sera parfois un peu plus frais que ce matin.
Oui.
Ça baissera un peu. 11 à 15 degrés encore, quand même, dans les autres régions.
Merci beaucoup, Louis RTL. Ah bon, il est, on est un petit peu en avance. Vous êtes fier de vous, hein?
Non. Non, la seule bonne nouvelle, c'est qu'on va revenir à des températures plus raisonnables, donc à peu près de saison. Ce qui veut dire que la neige va revenir en montagne dès la nuit prochaine et la journée de demain, où le soleil devrait aussi revenir.
Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà. On va prendre un petit peu de temps d'avance. Il est 7h29. Le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 4 janvier. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et c'est le coup de théâtre de la nuit à l'Assemblée. L'examen du projet de loi sur le pass vaccinal a été suspendu par un vote à main levée, une procédure rarissime qui a réjoui l'opposition. Il faut dire que cette opposition justement était très remontée, les débats particulièrement musclés, 700 amendements sur la table. Et dans le brouhaha ambiant, une voix s'est élevée, celle du député En Marche Raphaël Gérard. Il a été malade du Covid et il en garde de graves séquelles.
Ma liberté aujourd'hui, vous voyez, elle est là. C'est 30 cm de câble et 3 kg de matériel que je porte 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça la réalité, c'est la mienne et c'est celle de dizaines de milliers de personnes dans ce pays dont la vie a été bouleversée par une épidémie. Et je peux vous assurer qu'à aucun moment je n'ai envie de revivre ça et que chaque fois que je sors dans la rue, que je prends les transports, que je prends le train, je me pose pas la question de savoir si je peux manger ou pas des cacahuètes. Je me pose la question de savoir si je vais sortir sain et sauf de ce train ou si je vais repartir dans le même enfer. C'est ça la réalité.
Le député Raphaël Gérard, député de la Charente, cette nuit à l'Assemblée. La conférence des présidents de groupe se réunira à 10h ce matin. C'est à elle d'inscrire à la suite de l'examen de la loi à l'agenda, peut-être dès ce soir ou demain. En tout cas, cela complique l'adoption du texte avant le 15 janvier, comme le souhaite le gouvernement. Il y a pourtant urgence, car lentement mais sûrement, la pression s'accentue sur l'hôpital sous l'effet de la vague Omicron. Plus de 19 000 patients Covid, dont 3 600 en réanimation, majoritairement des malades non vaccinés. Sur 7 jours, on compte en moyenne 167 000 contaminations quotidiennes. Devant les pharmacies et les laboratoires, les files d'attente s'allongent jusqu'à la rupture. Dans l'Essonne, le centre de test PCR -X% a dû fermer hier, faute d'écouvillons.
Je n'ai plus de fourniture, je ne peux plus prendre personne, désolé.
Problème de stock, parce qu'on ne peut pas malheureusement prédire le nombre de personnes qui viennent. Et on a été pris de court au final. Normalement, on prélève de 9h à 18h. Et là, j'ai bloqué moi depuis 13h déjà. On est obligé d'attendre demain matin pour être livré à la première heure. Donc voilà, on ne peut pas prélever tout le monde malheureusement. On est déjà, je crois, à 450 tests ou 470 tests. Ouais. C'est hallucinant.
Mehdi, manager de ce centre de test au micro-RTL de Julie Brou.
Il n'était pas vacciné. Hein. Le Covid a donc emporté les frères Bogdanov à quelques jours d'intervalle.
Oui, 6 jours après son jumeau Grishka, Igor Bogdanov est décédé hier à son tour. Les deux frères avaient été des stars du petit écran dans les années 80 avec ceci.
Et voilà, à mi-temps X, grâce à la chronovision, vous avez pu suivre pour la première fois en direct la régression temporelle qui nous permet chaque semaine de franchir les siècles du futur et de vous rejoindre en 1979.
Temps X, émission de science et surtout de science-fiction qui a débuté effectivement en 79 et qui s'est prolongée jusqu'en 87. Igor et Grishka Bogdanov étaient âgés de 72 ans. C'est une procédure assez exceptionnelle. 6 policiers sont jugés aujourd'hui en conseil de discipline dans l'affaire Chaynaise. Cette jeune femme immolée par le feu en pleine rue par son mari. C'était en mai dernier à Mérignac, près de Bordeaux. Chaynaise avait déposé plainte 2 mois avant sa mort. La police des polices a établi que des fautes et des erreurs d'appréciation ont été commises par plusieurs agents, du simple brigadier aux officiers. De véritables négligences, selon Julien Plouton, l'avocat de la famille de Chaynaise.
C'est surtout une série de manquements. On a une jeune femme qui, de façon très courageuse, va dénoncer des faits d'violence dont elle est victime. Et pourtant, rien de véritablement concret ne va se passer, et surtout pas la moindre tentative d'interpellation de son agresseur. Et ça, ça s'explique difficilement. Et je ne pense pas que cela puisse se justifier simplement par le manque de moyens bien réels des services de police ou l'engorgement des commissariats du fait de l'accumulation de procédures et de plaintes.
Un propos recueilli pour RTL par Philippe De Maria. Aux États-Unis, la fondatrice de la start-up Theranos vient d'être condamnée. Après plus de 3 mois de procès, Elizabeth Holmes, c'est son nom, a été reconnue coupable d'escroquerie. Elle risque plusieurs dizaines d'années de prison. C'est la chute d'une star de la Silicon Valley, Lionel Gendron.
Oui, à 19 ans, Elizabeth Holmes s'ennuie à Stanford. Alors elle quitte l'université et fonde Theranos. La promesse, révolutionner les analyses sanguines pour détecter des dizaines de maladies. Les analyses seront rapides et moins chères. On est en 2003. L'audace et l'intelligence de cette très jeune femme dans un univers masculin enthousiasme les investisseurs. C'est le cas de l'empereur des médias Rupert Murdoch. En 2015, Theranos vaut 10 milliards de dollars. Mais la chute est aussi fulgurante que l'ascension. Sa machine révolutionnaire, c'était du vent. Au tribunal, elle rejette la faute sur son ancien directeur des opérations qui était aussi son amant. Malgré tout, Elizabeth Holmes, 37 ans, fascine toujours. Il y a des t-shirts ou des tasses à son effigie. Une série est en tournage. Les producteurs attendaient juste la fin de l'histoire.
Lionel Gendron, correspondant d'RTL aux États-Unis. C'est une semaine cruciale qui s'ouvre pour le prince Andrew. La justice américaine va examiner la validité d'une plainte pour agression sexuelle dans le sillage de l'affaire Jeffrey Epstein. La plaignante n'avait que 17 ans au moment des faits. Du jamais vu de mémoire de trader, Apple a franchi hier le seuil symbolique des 3 000 milliards de dollars de capitalisation. 3 000 milliards de dollars. C'est une première dans l'histoire boursière. Ça n'a duré que quelques secondes, mais ça montre la bonne santé du groupe. Sa valeur a quasiment été multiplié par 10 depuis le départ de Steve Jobs. En football, la logique a été respectée en Coupe de France. Le PSG s'est qualifié tranquillement pour les huitièmes de finale en battant Vannes 4-0 avec un triplé de Kylian Mbappé. Dernier match ce soir, c'est le derby du Nord entre Lens et Lille. Match sous Covid avec un public réduit à 5000 spectateurs et le LOSC privé d'au moins 10 joueurs testés positifs. Enfin, sachez que Warner Music vient de mettre la main sur un sacré trésor, l'intégralité des droits sur les chansons de David Bowie. Un accord à plus de 250 millions de dollars, paraît-il, stratosphérique.
Isabelle Choc, on vous retrouve tout à l'heure à 8h20 pour notre nouveau rendez-vous France 2022. Nous serons avec d'autres experts de la rédaction en se demandant ce qui préoccupe réellement en matière de réchauffement climatique en ce moment. Dans un instant, François Langlais, le monde virtuel de l'art. C'est fascinant, restez avec nous.